Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30, ce journal vous est présenté par Clément Bailly.
Bonjour Lauriane, bonjour à tous, voici les titres du jour. À la une de ce journal, la compagnie aérienne Challenge, basée à Biarritz, fait l'objet d'un millier de plaintes, explication dans ce journal. Dans la suite de notre dossier de la semaine, nous recevrons Marie Thierry, diplômée d'un master en sciences et gestion de l'environnement. Et demain se déroule la 8e édition de la cycloparade féministe à Liège, dans le cadre de la Journée des droits des femmes. Quel est le thème et le programme ? Réponse dans ce journal. L'entreprise de fret Challenge Airlines, basée à Liège Airport, est la cible de nombreuses plaintes. Cela concerne le transit d'armes américaines, Lauriane ?
Plus de 1000 plaintes ont été déposées contre la compagnie de cargo belgo-israélienne Challenge. Elle est accusée de transporter des armes vers Israël. Ces plaintes sont le résultat d'un appel lancé par plusieurs associations, dont l'association belgo-palestinienne. Elle estime que les activités de la compagnie sont contraires au droit pénal belge. La première alerte concernant ce transit d'armes américaines vers Israël remonte à novembre 2023. En février 2024, des manifestants pro-palestiniens s'étaient rassemblés à Biarritz devant l'entreprise pour dénoncer le transport de matériel militaire. La Wallonie avait alors décidé d'interdire tout transit d'armes vers le pays de Netanyahou grâce à un arrêté ministériel. Mais selon l'association Vredos Axi, Challenge continuerait d'assurer le transport des armes américaines vers Israël, mais sans faire escale par la Belgique.
Dans le Hainaut, un pont en travaux s'est effondré hier sur l'E42 du côté de la Louvière, faisant un mort et plusieurs blessés. L'accident a entraîné la chute de grues sur une péniche. Les secours ont été rapidement mobilisés et une enquête est en cours pour déterminer les causes. La circulation a été fortement perturbée avant d'être rétablie en fin de journée. Les autorités locales assurent un suivi pour les victimes et leurs familles. Et hier, la Belgique a été condamnée par la CEDH. En cause, un test osseux réalisé sur une demandeuse d'asile guinéenne. Ce genre de test sert en fait à vérifier l'âge d'une personne. Dans le cas présent, ce test a été jugé intrusif et violant la vie privée. En fait, en 2019, la jeune femme a été déclarée mineure à son arrivée chez nous, mais l'examen l'a considérée comme étant majeure. Résultat, elle a été transférée en centre pour adultes. La Cour estime donc que des alternatives auraient dû être envisagées. Ainsi, la Belgique devra lui verser 5 000 euros pour dommages moraux. A noter que depuis, la jeune femme est reconnue réfugiée.
Place à la suite et à la fin de notre dossier de la semaine. Pour rappel, nous sommes intéressés tout au long de la semaine à la problématique de la fast fashion. Et nous avons vu qu'à Liège, il existait des alternatives. Et pour conclure cette thématique, nous accueillons Marie Thierry. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes diplômée d'un master en sciences et gestion de l'environnement à finalité spécialisée à l'ULiège. Et vous avez réalisé un mémoire en lien avec la fast fashion. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, j'étais particulièrement préoccupée par l'importante quantité de déchets textiles qui étaient produits par la fast fashion. Et j'ai décidé de réaliser mon mémoire sur l'étude d'alternatives à ce modèle. Et j'ai souhaité donc étudier des alternatives de la région de Bruxelles-Capitale parce que j'y avais réalisé mon stage et parce qu'il y avait eu un contexte assez favorable pour l'émergence de ce genre d'alternatives. Donc j'ai souhaité les étudier et voir donc comment elles décidaient de prolonger la vie des textiles. Et donc pour cela, j'ai tenté de mettre en lumière leurs activités, mais aussi leurs grandes étapes d'évolution et les éléments qui les rapprochaient ou non de la fast fashion. Et donc, parmi les éléments que j'ai pu relever grâce à ma recherche, mais c'est par exemple le fait que ces initiatives, elles étaient essentiellement développées par de jeunes femmes entrepreneuses, que les raisons qui les poussaient à lancer ces initiatives, elles étaient assez variées, comme la volonté de répondre aux conséquences de la fast fashion, un besoin de créativité, mais qu'elles présentaient des mécanismes communs, comme par exemple un changement total de la conception du déchet textile qui n'était plus vu comme un déchet mais vraiment comme la matière première de leurs activités. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on voyait qu'elles étaient inscrites dans un nouveau modèle d'habillement totalement différent de celui de la fast fashion, fondé sur une production et une consommation plus responsables, de nouvelles valeurs, plus d'humains, de protection de l'environnement, mais aussi sur le savoir-faire.
Et comme on l'a dit en intro, il existe des alternatives à Liège, vous en parlez dans votre travail. Est-ce que ces alternatives comme la seconde main et les vêtements durables sont une solution pour les jeunes ?
Je pense, oui. Par exemple, pour la seconde main, elle permet de faire par exemple des économies car elle est généralement moins chère que l'achat de nouveaux vêtements. Et donc, elle peut être plus adéquate pour le portefeuille plus restreint des jeunes. Elle permet aussi de dénicher des pièces uniques pour rendre son style plus original, ce que peuvent aussi parfois aimer les jeunes. Et même si donc, la seconde main ne permet pas forcément de s'habiller toujours avec les dernières tendances, mais Finalement, il faut se demander si c'est intéressant de suivre les dernières tendances, dans le sens où on se dit qu'en fait, c'est quelque chose qui est créé de toutes pièces par les marques de fast fashion pour nous inciter à acheter toujours plus. Et donc, en fait, la seconde main, elle permet de s'individualiser un peu plus et de créer son propre style, et notamment par le fait qu'il existe plein de types de friperies différentes. Et donc, pour tous les styles, on peut trouver des vêtements à motifs fleuris, de style classique, streetwear, etc. Et par rapport, par exemple, donc, aux vêtements durables qui ont donc un prix souvent plus cher, mais qui est justifié parce qu'ils sont produits dans de meilleures conditions sociales et environnementales. Et il est compréhensible que ce prix puisse être un frein pour les jeunes, qui ont souvent un budget plus serré. Mais entrer dans une mode durable, ça demande aussi de changer sa manière de consommer les vêtements. Et donc, par exemple, d'acheter moins de vêtements, des vêtements plus chers, mais de meilleure qualité, qui dureront plus longtemps.
Et vous avez dit qu'il y avait un nombre de friperies considérable. Est-ce que vous avez constaté une augmentation des friperies, mais aussi des alternatives à la fast fashion au fil des années ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé plutôt sur le cas de Bruxelles. Et à Bruxelles, on a vu effectivement une augmentation assez importante du nombre d'initiatives, mais aussi, je pense, à Liège et à Namur, j'ai pu le constater. Et une diversification assez importante des projets, qui n'étaient plus seulement que dans la seconde main, mais par exemple dans la location de vêtements, des cours de couture pour apprendre à réparer ses vêtements. Beaucoup d'initiatives différentes. Et qui permettait justement d'attirer de plus en plus de publics différents. Des personnes sensibilisées, mais aussi des personnes qui n'étaient pas sensibilisées, des personnes d'âge assez varié. Il y a de plus en plus de personnes en fait, qui sont intéressées de changer le modèle. Mais malheureusement, en fait, actuellement, ces initiatives, elles ne sont pas facilement viables. Parce qu'en fait, elles vivent surtout grâce à des aides, que ce soit au niveau des infrastructures, de la réglementation ou de subsides, de mécénat par exemple. Et c'était particulièrement le cas d'un développement plus important à Bruxelles, étant donné que il y avait eu un programme régional en économie circulaire qui a aidé justement au lancement d'initiatives de ce genre, par exemple.
Et il y a ce programme qui aide au lancement de ces initiatives. On remarque que ça augmente, il y a des projets qui sont diversifiés. Et au final, la question se pose, est-ce vraiment possible avec tout ça de se passer de la fast fashion ?
Eh bien, je dirais que oui, dans notre quotidien, il y a moyen de se passer de la fast fashion pour s'habiller parce qu'il y a pas mal de solutions pour tous les styles, différents types de budgets et de publics. Mais évidemment, ça demande une habitude vestimentaire totalement différente. Être prêt à acheter moins souvent, mais plus de qualité. Être prêt à ne pas forcément porter toujours les dernières tendances, mais avec à l'appui un modèle environnemental et local et humain, pardon, plus tenable. Et aussi un changement de la conception du vêtement, qui n'est plus simplement vu comme un objet jetable, mais comme un élément à se réapproprier, qu'on peut faire tourner et dont on peut prolonger la vie. Et il faut aussi se dire que ce qui se passe, c'est qu'abandonner la fast fashion, c'est aussi entraîner pas mal de conséquences et de nouveaux questionnements. Par exemple, la question des emplois, parce que la fast fashion, elle permet d'employer un très grand nombre de personnes, qui même s'ils ont des emplois précaires, sont quand même des emplois qui leur permettent d'une certaine façon de subsister, et si les ouvrières perdent leur travail, elles perdent ce moyen de subsistance. Et c'est une question qui a été soulevée par les acteurs que j'ai pu rencontrer, donc c'était intéressant de la présenter ici. Et donc en fait, c'est une question à nuancer et à approfondir.
Merci beaucoup pour cette conclusion très complète, Marie, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Demain 8 mars est un jour important, c'est la journée dédiée à la lutte pour le droit des femmes. À cette occasion, la cycloparade liégeoise propose un programme riche et engagé, centré cette année sur le thème des violences faites au corps des femmes. Yamina Meziani, porte-parole du réseau Collective et Ardente, est en charge de l'organisation de l'événement. Elle nous explique la raison de ce choix, ainsi que le programme.
On parle souvent de violences faites aux femmes. Ici, on s'attarde à l'aspect corporel. Oui, chaque année, on essaie de décliner. C'est plus pour faire découvrir toutes les thématiques que les féministes portent.
Le rendez-vous est fixé à 11h au B3, où diverses activités sont prévues.
Donc il y a le village associatif qui propose toute une série d'activités de sensibilisation sur les thématiques et la thématique principale de cette année, mais pas que. Il y a des prises de parole aussi, de témoignages, on aime bien faire témoigner les femmes. Et ensuite, vers 13h, c'est la cycloparade qui va déambuler, qui dure à peu près une heure. L'idée ici, c'est vraiment de faire ensemble de nos revendications, que tout le monde ait l'occasion de marcher avec des pancartes.
Des propos recueillis par Clémence Giroul. Et nous restons avec toi, Clémence. Sur le plan international, hier, les 27 États membres de l'UE sont tombés sur un accord.
Oui, 800 millions d'euros, c'est le montant du plan de financement qui a été décidé hier par l'Europe pour s'armer. Après le rapprochement entre la Russie et les États-Unis, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne s'engagent donc à investir massivement, tout en développant davantage leur aide à l'Ukraine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a affirmé que l'histoire a été écrite. Et d'ailleurs, nous venons d'apprendre ce matin que les forces russes bombardent massivement des infrastructures énergétiques et gazières en Ukraine. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur des dégâts.
Et on a enfin quelques nouvelles du pape François.
Oui, hospitalisé à Rome depuis 3 semaines en raison d'une pneumonie, le souverain de 88 ans a adressé hier un bref message audio pour remercier ses fidèles. Selon le Vatican, l'état du pape François est aujourd'hui jugé stable et aucune nouvelle crise respiratoire n'a été signalée jeudi. Toutefois, sa condition demeure fragile et les médecins restent prudents quant à l'évolution de son état de santé.
Et on passe à présent au sport. Hier soir, en Conference League, le Cercle de Bruges disputait ses 8e de finale à l'ENS.
Et oui, les Brugeois se sont inclinés 3-0 Clément face au club polonais de Jagiellonia Białystok. Et à l'image de ma prononciation, la rencontre a été compliquée. Réduit à 10 de la 59e minute, ils ont été punis en fin de match par un doublé d'Afimiko Pouloulou. Excusez-moi. Et à but de Taras Romanchuk. Le Cercle devra donc espérer un miracle pour le match retour au Jan Bredel jeudi prochain.
Et on reste toujours en football avec le foot belge qui reprend ses droits et des adversaires costauds pour les clubs liégeois.
Oui, avec des prononciations plus faciles. Ce dimanche, le RFC Liège dispute à Raucourt une rencontre contre la RAL classée 3e. La rencontre débute à 13h30. Les hommes de Gaëtan Glober espèrent enchaîner une 3e victoire consécutive. Et en Jupiler Pro League, plus compliqué pour le Standard qui se déplace à l'Union Saint-Gilloise pour conserver un espoir d'intégrer le top 6. Les 3 points sont impératifs pour les Rouges. Les Standardmen restent sur une défaite lors du classique contre Anderlecht à Sclessin.
On en parlait hier, les championnats d'Europe d'athlétisme en salle ont débuté et on peut dire que nos athlètes ont vécu un départ plutôt rêvé.
Tout à fait Clément, la Belgique est médaillée d'argent avec un temps de 3 minutes 16 secondes et 19 centièmes au relais 4 x 400 mètres mixte. L'équipe était composée de Julia Watrin, Imke Verwaat, Christian Iguacel et Elena Ponnet. Pendant la majorité de la course, la Belgique a dominé en tête jusqu'à qu'Elena Ponnet se fasse dépasser par la redoutable Femke Bol, dernière relayeuse des Pays-Bas. Le podium est composé des Pays-Bas, de la Belgique et de la Grande-Bretagne, médaillée en bronze.
Et pour finir en tennis, à l'ATP d'Indian Wells, il y a des Belges au programme.
Oui, Zizouberg s'est imposé donc hier face à Etta Queen en 2-7. David Goffin a aussi remporté son match 6-4, 7-5. Il accède donc au deuxième tour mais se retrouvera face au 10e mondial, l'Australien Alex de Minaur. Elise Mertens est également présente. Elle jouera demain en simple et en double.
Merci beaucoup Inès, c'est la fin de ce journal.
Merci Clément. En ce qui nous concerne, c'était notre dernier journal de l'année. Merci de nous avoir suivis pendant ces quelques mois. Mais rendez-vous lundi avec une autre équipe. Très belle journée à tous et à toutes sur 48FM.